Vous écoutez Cinécast, le podcast cinéma présenté par Guillaume Herings et Thibaut Van der Werf. Au programme, l'actualité du grand écran et les nouveaux films à l'affiche cette semaine en Belgique. Bref, votre condensé d'infos ciné à ne pas manquer. C'est parti. Bonjour à tous, vous écoutez Cinécast épisode 16. Salut Thibaut.
Salut Guillaume.
On n'a pas d'invité aujourd'hui, nous sommes à deux, tardivement dans notre bureau, et on peut dire ça comme ça.
Dans notre studio.
Dans notre studio, oui, tout seul.
Oui, bureau.
Les lumières qui sont très très fortes d'ailleurs ce soir. Mais on a une bonne nouvelle parce qu'on a eu la confirmation, en tout cas en fin de semaine passée, que nous avons officiellement nos accréditations pour le Festival de Cannes.
Oui.
Et ça, c'est pas rien.
Si personnellement, je n'avais aucune crainte me concernant, vu que j'y suis déjà depuis... 3 ans. La bonne nouvelle, c'était surtout pour toi, parce que c'était pas sûr qu'on allait avoir deux accréditations pour nous.
Mais tu oublies de préciser quelque chose de très important, c'est que nous allons au Festival de Cannes en tant que cinécast, mais aussi, on n'a pas encore tous les détails, mais en tout cas c'est sûr, on y va aussi pour représenter Ciné News, donc le site d'information du cinéma en Belgique, qui est donc le petit frère du soir hein, pour tout ce qui est cinéma, et puisque ils sont dans le même groupe. Donc le but, c'est d'aller couvrir l'événement pour Cinécast, donc pour le podcast, et aussi sans doute pour eux. Donc on va voir un peu concrètement comment ça va s'organiser en termes de contenu, etc. Mais vous risquez de voir notre tête, ou en tout cas écouter nos belles voix, aussi sur Ciné News pendant la durée du festival.
Mais c'est ça l'idée, c'est de le faire pour eux, donc on leur fera du contenu.
Exactement. Donc voilà, plus d'infos coming soon.
Ouais, et on a déjà un appart.
Apparemment non, parce que tu me dis que je dois payer quelque chose, tu m'informes pas du tout.
J'attends que tu me rendes l'argent.
Ouais. Moi j'arrive dimanche soir, tu me dis dimanche soir ça n'arrange personne, tu adores dormir sur le canapé.
Presque, ouais.
Je sais ça, ouais, c'est pas grave.
Sur la chaise de la cuisine.
Oh non, non, juste le canapé, le sofa, le poufa, ou ce que, tout ce que tu veux.
Ah, c'est moi qui dors dedans.
Ah bon? Bon, la terrasse, s'il fait beau.
Peut-être.
Vous allez me laisser à Nice.
Si tu prends un petit mousse, oui. Ça devrait aller.
Ok, ben voilà. Les coulisses du Festival de Cannes, n'est-ce pas? Le glamour.
Les coulisses de la mise en place.
Exactement.
De notre petite popote.
Et on vous fera une émission sur place, vous inquiétez pas, avec le coucher du soleil. Écoute, Cannes, ça va être sympathique.
À deux, on en fera une en une, certainement.
Ah oui.
Peut-être deux.
Et puis, il y aura Constant qui sera sur place, il y aura Eric Mathieu, donc tous les personnes qu'on a eues les semaines précédentes.
Oui. Ils seront là-bas. Avec nous.
Donc, ils pourront dire coucou aussi.
Dans notre appart, en plus.
Dans notre appart, décidément. Ça... Oui, je sais, excusez-moi, je tape parfois dans des bouteilles d'eau qui sont sous ce bureau. Ne demandez pas pourquoi.
Alors, c'est ça que tu fais.
Avant qu'on commence tout ça, je tiens quand même à vous préciser deux, trois choses qui sont super importantes pour nous. C'est peut-être tout con, c'est peut-être gratuit, tout ce que vous voulez, mais pour nous, ça fait toute la différence. C'est les réseaux sociaux, c'est SoundCloud, c'est iTunes. S'il vous plaît, si vous aimez bien le podcast, si vous écoutez maintenant, allez vite faire pause, un petit clic sur iTunes, abonnez-vous, mettez un commentaire, quoi que ce soit, parce que toutes ces petites actions, ces petits gestes nous permettent de grandir et d'acquérir une fanbase et de pouvoir proposer des choses de plus en plus sympathiques. Donc, merci beaucoup et continuez à faire ça, ça nous fait vachement plaisir.
Merci.
Oui, c'était la petite page pub pour nous.
Alors, qui est-il au programme,
cette semaine, Guillaume? Oui, j'y vais. Hein. Cette semaine, on va parler de 3 films. Donc, comme la semaine dernière, on n'a pas eu l'occasion de tout voir. Et c'est peut-être tant mieux, parce que quand on voit la programmation de ces
semaines-ci... Cette semaine, c'est pas... Ouais. Oui, alors, c'est vrai qu'on voit un peu moins de films en ce moment, parce que, bon, pour ma part, je pense que je l'ai déjà dit et répété, je travaille pour un festival en ce moment. Festival qui arrive bientôt au mois d'avril.
Tu ne l'as jamais dit.
Festival du film fantastique, le BIF.
Exactement.
Je travaille au marché du film pour l'instant, donc je suis un peu overbooké et donc j'ai beaucoup moins l'occasion d'aller en vision de presse pour l'instant, ce qui fait qu'on a des semaines un peu plus light pour le podcast, mais on parle de choses intéressantes néanmoins.
Exact.
Et on vous proposera aussi d'ici la fin du mois une émission spéciale pour un gros film, le meilleur film de l'année,
oui.
Donc que je n'ai pas encore vu.
Ready Player One de Steven Spielberg.
Donc voilà, on a quand même des choses qui se profilent, mais
voilà,
nos agendas respectifs font qu'on parle d'un peu moins de choses, on parle de moins de films en ce moment. Et oui, on a vu Tomb Raider aujourd'hui, mais on ne peut rien dire avant mercredi. Le 14, le jour de la sortie. Mercredi. Donc on publiera le podcast de la semaine prochaine, mercredi.
Mercredi matin.
Comment on fait? Oui, c'est assez aléatoire. Bon, en général, on essaie plutôt le mardi, mais voilà, ce sera mercredi.
C'est pas grave. Alors, cette semaine... Revenons à nos moutons. Nous allons parler de 3 films. Donc, je disais, Une part d'ombre, c'est un film belge.
Oui.
Cocorico, si on peut dire ça comme ça. Oh, Lucie, un film qui avait été présenté à la Festival de Cannes 2017.
Oui.
Donc, ça date.
À la semaine de la critique.
Troisième film, là, j'ai hâte que tu m'en dises un peu plus. Madame Mills, le nouveau film de Sophie Marceau. C'est pas Madame Milf, c'est Madame Mills. Et tu vas nous expliquer pourquoi plus tard dans l'émission avec Pierre Richard, je pense aussi. J'ai vu son poster, ça a l'air d'être le brillantissime 2 de 2018, peut-être. Tu vas nous en parler. Si tu vois encore de quoi je parle quand je parle de brillantissime, parce que tu me fais un regard comme si.
Oui, j'étais juste resté calé sur ta blague, Madame Milf, que je trouvais assez nulle. Mais du coup, voilà. J'essaie de m'en remettre petit à
Elle est
petit.
jolie, Sophie Marceau.
Elle est jolie,
De
oui.
quoi tu
Mais
parles?
d'ailleurs, c'est un des problèmes du film.
Ah non, on va en parler tout de
Non,
suite.
non, 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 on n'en parle pas tout de suite. Mais regarde les affiches du film, t'as l'impression qu'elle a 15 ans, quoi.
Bah
Et
oui,
quand on a 50, voilà.
Excuse-moi, c'est pour ça que j'utilise le terme MILF, parce que je pense que ça lui va bien.
Oui,
Alors,
mais
on
c'est
commence.
problématique.
Oui, bien sûr que c'est problématique. On commence.
Allez, le box-office.
On commence tout de suite comme ça que je mène avec le box-office. Les résultats du 22 au 25 février. Donc, comme pour la semaine passée, il n'y a pas vraiment de surprise là-dessus. C'est Black Panther qui domine le box-office en Belgique avec plus de 500 000 dollars pour la semaine précédente. Donc, toujours strong, malgré quand même une chute de 58%. Bon, le pauvre, qui fait quand même de très très beaux résultats. Deuxième, c'est Jumanji Welcome to the Jungle qui continue à être bon en Belgique. Hein. Franchement, ça fait maintenant 4 semaines qu'il est là, il est strong. Enfin, 4 semaines officielles, parce que comme on l'a dit, ça fait 5 semaines, 8 semaines qu'il était à UGC le soir pour les projections Unlimited. Et dans ce cas-ci, ben voilà, il est pratiquement à 4 millions de dollars en Belgique, donc ça reste une des plus grosses ouvertures de 2018 jusqu'ici, ça reste Jumanji.
Et il sera dans le top 10 de l'année, c'est certain.
En termes de box-office, il y a de fortes chances, comme je dis tout le temps. Troisième film, c'est Maze Runner de Dead Cure, un film qui est passé un peu inaperçu en termes de marketing. On l'avait expliqué parce que forcément, il est sorti 2 ans plus tard, etc. Mais qui réalise quand même de bons scores, puisqu'en 4 semaines, il approche tout doucement des 3 millions de dollars en Belgique. Comme quoi, apparemment, le marché belge est assez friand de cette franchise. Et quatrième, cinquième, deux nouveaux films qui font leur entrée dans le top 5. Ça fait du bien. Den of Thieves, c'était le film avec 50 Cent qui était
C'était
dedans.
le film de Castagne de Gérard Butler. Et il y avait 50 Cent
Gérard
dedans, en
Butler,
fait.
après Geostorm, boum,
Toujours pas
Den of
vu.
Thieves.
Je ne sais pas si j'irai le rattraper, pour être honnête.
J'ai pas vu non plus, mais d'après les échos, il paraît que c'était pas mal. C'est pas nul, quoi.
Oui, c'est le film de Castagne que t'as vu, le lendemain, tu l'as oublié, quoi.
Ouais, un peu plus drame que Castagne. Un
Ah
mélange
ouais?
des deux. Ouais,
D'accord,
c'est drame
d'accord,
Castagne.
d'accord.
Et Aitonia, on en parlait la semaine passée. C'est d'ailleurs, je pense que c'est même le film de la semaine passée.
Et on en reparlera cette semaine. Il est sorti il y a 2 semaines.
Il est sorti il y a 2 semaines, tout à fait, excusez-moi. C'est vrai, ça, le temps passe vite. Qui par contre a fait un bon score en Belgique, puisque pour un film comme ça, un peu plus petit, un peu plus niche,
Un peu plus intimiste.
exactement, il a fait 62 000 dollars de recettes pour sa première semaine en Belgique sur 35 écrans, donc c'est pas un mauvais score pour un film de genre.
Oui. Et sachant qu'il a glané un Oscar quand même, on en reparlera après, parce qu'on vous fera un
Oui.
petit récap et on dira ce qu'on a pensé du résultat enfin, des résultats des Césars et des Oscars. Donc voilà, Aitonia a glané un Oscar. Je pense que ça pourrait lui bénéficier encore, lui donner un petit boost pour les entrées.
Exactement, comme tu le dis, on va passer en récap à la fin de l'émission les résultats des Césars et des Oscars pour faire partie de notre immense plaisir que le chez Pauvoiteur a remporté meilleur film, meilleur réalisateur. Ça nous fait plaisir.
Tout à fait.
On plonge tout de suite dans le premier film de la semaine, film belge, Une part d'ombre de Samuel Tillman, avec Fabrizio Ranjone.
Ouais.
J'ai toujours du mal à dire son nom, mais il a un beau nom, quand même, faut le dire. Natacha Renier, Baptiste Lalieux. C'est un film, concrètement, on va l'expliquer comme ça, hein, c'est un thriller qui se passe en grande partie bon, en Belgique et également dans les Vosges,
Ouais.
puisque, en gros, hein, lors d'un petit jogging en fin de journée,
En vacances, dans les Vosges.
en vacances, David a croisé des mauvaises personnes, ou en tout cas, il s'est passé quelque chose le soir même. On a retrouvé une femme morte, et vu qu'il est passé dans le coin lors de son jogging, peut-être que c'est lui, il est mis sur la liste des suspects, mais lui n'a rien à se reprocher. Mais en même temps, on commence à douter de lui. Peut-être qu'il y a des affaires qui ressortent un petit peu du placard. Donc, est-il coupable, est-il pas coupable? C'est un peu toute l'énigme de ce film. Et disons-le tout de suite, il le fait plutôt bien, cette énigme, ce côté polar et thriller. Je te laisse parler parce que je sens que tu as envie de me dire quelque chose à propos de ce film, avant qu'on en discute plus amplement, puisqu'on a tous les deux vu le film.
Écoute, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, j'étais assez surpris. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi bon. Je l'avais raté au FIF, donc j'étais assez curieux de le voir ici, maintenant, parce qu'on m'en avait dit quand même du bien. Et donc voilà, j'aime bien Fabrizio Ronchon, donc j'étais assez curieux de voir ce que ça donnait. Et voilà, plutôt agréablement surpris. Je trouve que c'est un thriller qui est bien ficelé, dans le sens où sa structure narrative est, est très bonne. Elle, parce que l'intrigue se dévoile petit à petit. C'est pas un. Enfin, comment dire? C'est pas un film où tu sais comment ça s'est passé. Et après, il faut voir si, si le gars est coupable, pas coupable. T'es pas dans le point de vue des flics et tout. Ici, c'est un gars, on sait qu'il a été impliqué d'une certaine façon. Témoin, peut-être plus, peut-être pas. Voilà. Est-ce qu'il est le coupable? Est-ce qu'il l'est pas? Effectivement, ses proches, lui, se dit irréprochable. Et donne, enfin apporte toutes les preuves qu'il peut apporter, mais le doute s'installe quand même, et c'est ça qui rend les choses intéressantes et compliquées. Et donc, en dévoilant cette intrigue petit à petit, en dévoilant quelques éléments au fur et à mesure que le film avance, ça permet d'impliquer le spectateur qui a envie de, qui se prend au jeu en fait et qui peut se prendre au rôle de la police par exemple. Donc, je trouve que c'est assez bien vu. Et ça fonctionne bien, et grâce au montage aussi notamment, il y a des petits flashbacks de temps en temps, ce genre de choses, mais c'est pas fait de manière assez, assez épuisante, assez lourde, tu vois, donc je trouve que c'était assez bien dosé. Et le casting, vraiment top, Fabrizio Ronchon, je l'ai vu dans beaucoup de choses maintenant, et je trouve que c'est clairement un de ses meilleurs rôles. Natasha Rainey, elle est très bien aussi. Et le reste du casting, hein, c'est beaucoup des. Il y a Saul, le chanteur Saul, qui a un rôle.
Oui.
Hein. Il y a Johan Blanc, hein, le héros de la série La Trêve aussi, qui est
Tout à
dedans.
fait.
Enfin voilà, il y a beaucoup de comédiens belges qui sont présents. Et voilà, ce fut une jolie surprise.
Oui, enfin, ce que tu dis, enfin, je partage tout à fait tes propos. Pour moi,
Mais.
c'était vraiment... Non, 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 pas du tout. Il n'y a pas de mais. Cette fois-ci, il n'y a pas de mais.
Bien.
Non, vraiment, j'étais très impressionné. J'étais là, waouh, c'est cool que... Enfin, j'ai rarement un sentiment aussi positif avec un film belge, tu le sais. Et ce cas-ci, je me suis dit, c'est vraiment un polar. On est vraiment impliqué dès le début. On sent que c'est louche. Je trouve que les plans sont très bien travaillés avec l'aspect sombre de la forêt. Vraiment, l'ambiance est bien travaillée dans ce film. Et c'est une des choses qui m'a directement agrippé. Et c'est vrai que j'ai été interpellé, enfin interpellé, vraiment étonné par la performance de Fabricio. Qui joue vraiment très bien le double jeu, donc le côté professeur très gentil, sous tout bon rapport, le bon pote quoi, et le mec qui se cache un truc, enfin vraiment il joue très bien les deux facettes du personnage, et certaines scènes sortent du lot clairement. Et contrairement à pas mal de films belges ou français, j'ai jamais été sorti du film par la performance de l'un ou l'autre acteur, tu sais qu'ils sont peut-être un peu over the top parfois ou très série France 2, et là par contre c'était vraiment égalité, enfin c'était très bon sur tous les rapports quoi, donc.
Il y a un élément
Vraiment.
que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est qu'en fait, c'est donc. On l'a pas vraiment spécifié plus que ça au début, mais les vacances auxquelles se rend David et son épouse et leurs enfants, en fait, ce sont des vacances en groupe avec des amis.
Oui.
Et toute cette bande d'amis, en fait, elle est issue d'un même milieu, c'est-à-dire que les maris, pour la plupart, les hommes, sont professeurs dans la même école.
Oui.
École, alors je pense que c'est école secondaire ou
Oui.
primaire,
Non, plutôt
mais
secondaire.
enfin, c'est pas
Oui, secondaire, parce qu'ils
précisé.
font des exercices de
Mais c'est.
respiration avec des élèves qui font du théâtre
Ah
et
oui, c'est
ils ont
vrai.
quand même l'air
Oui,
d'avoir
oui.
15-16 ans
Ouais.
plutôt que.
Ouais, ou
Oui.
une école d'art, enfin, soit un
Oui.
conservatoire, peu importe. Mais voilà, ils sont collègues et travaillent au quotidien ensemble. Ce qui crée évidemment des problèmes à un moment, parce que certains des amis doutent commencent à douter de l'innocence de David. Et donc voilà, je trouve que ça crée quelque chose de, vais pas dire de complexe, mais d'assez intéressant au niveau du traitement des personnages en tout cas.
Et là, le film m'a fait beaucoup penser au film de Thomas Vinterberg, La Chasse avec Mads Mikkelsen, qui est un excellent film, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, où c'est le propos le même, hein, donc c'est un professeur, là, dans ce cas-ci de maternelle, qui est accusé d'avoir touché une élève, en tout cas c'est l'élève qui a été reporté ça à ses parents et donc à la police du coup. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est un peu la question qui tourne autour de ce professeur-là. Mais du coup, tout son monde s'écroule, même si c'est peut-être pas vrai, bah, en fait, toute son image est détruite par cet incident-là. Et lui, c'est un peu la même chose, en fait, même s'il n'y a aucune preuve pour l'instant qu'il est coupable, hein, la police travaille, tout le monde commence un petit peu à douter de lui, à chercher des informations, à observer tous ses faux pas en disant, tiens, mais où est-ce qu'il était cette semaine-là? Enfin, et donc le type devient complètement parano de ses amis et de son milieu professionnel aussi, qui le rejette, à part deux, trois amis qui sont très solides et qui restent avec lui. Donc voilà, c'est un peu... Ça parle de ça aussi, quoi.
La comparaison est effectivement plutôt pas mal, mais il y a une différence majeure entre les deux. C'est que si je me souviens bien dans La Chasse, on comprend quand même assez vite que le personnage de Mads Mikkelsen est
Oui.
innocent. Tandis qu'ici, on ne le sait pas,
C'est
enfin,
vrai.
on n'a aucune certitude.
Il y a le doute.
Il y a le doute pendant beaucoup plus longtemps. Dans La Chasse, et c'est ça qui rend le film assez glauque au final, c'est qu'on sait qu'il est. C'est qu'on sait assez vite qu'il est innocent. Et quand on voit tout le déferlement que le personnage subit
Oui.
par la suite, c'est ça qui prend aux tripes des spectateurs. Et alors, je trouve pas qu'il y ait une formule meilleure que l'autre. Hein. Le fait de ne pas savoir si le personnage est coupable ou innocent rend les choses intéressantes d'une autre façon et assez stimulantes. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt bien vu. Et Samuel Tillman a fait du bon travail. Voilà. C'est un bon
Exactement.
film belge que je vous encourage à aller voir.
Une jolie surprise
Oui,
pour
ouais.
garder la dernière phrase de notre conduite. Si on devait donner une note, laquelle tu donnerais à Une part d'ombre? Personnellement, je donnerais 3.
Ah ouais. Bah écoute, j'aurais dit entre 2 et 3.
Soutenons le cinéma belge, donnons 3.
Allez, allez,
Pour la
allez, on peut,
performance aussi de
allez, on peut
Fabrizio, qui
donner
était
3.
vraiment bonne. Et
On peut donner 3.
hâte de
C'est
voir le
un
reste,
3
parce
très
que
généreux.
c'est quand même un all-star cast. Enfin, allez, je veux dire, pour la Belgique, il y avait le gars de la
Pour la
trêve,
Belgique, c'est pas
etc.
mal, ouais.
Franchement, c'est du lourd. C'est vraiment une bonne production. J'étais assez agréablement surpris. Ça donne envie de voir plus de films du genre.
De
Parce que je
cette
pense
trempe,
que
ouais.
on a le potentiel en Belgique pour faire des polars et des trucs un peu thriller. Parce
Très
que voilà,
clairement.
on est. Voilà, on peut faire des trucs de déprime. Mais on peut aussi faire des trucs un peu glauques et tout. Comme on l'a vu d'ailleurs, la film Ardennes, hein, c'est ça, les Ardennes, qui était aussi dans
Les
ce.
séries belges explosent, hein.
Oui.
La trêve a cartonné. À l'étranger aussi, en France, ça a très bien fonctionné. Ennemi numéro 1 a bien fonctionné aussi en France et s'est vendu dans beaucoup de pays. Unité 42, un peu moins peut-être, je
Non, mais il y
pense,
avait
mais
eu
il a
le.
bien fonctionné en festival aussi. Donc voilà, et ce qui arrive encore s'annonce bien.
Et il y avait
Donc...
eu de Missing, mais ça, c'est pas belge,
Non,
mais
c'était pas
c'était
belge,
tourné en Belgique
c'était
par la
britannique, tourné en
BBC,
Belgique. Ouais.
voilà, avec un casting en partie belge.
Ouais.
Donc c'était pas mal aussi, on voyait qu'il y avait une production locale, hein,
Ouais,
c'était
ouais. Ah
d'ici,
bah ça
mais.
c'est le tax shelter, hein, donc
Oui.
ils sont obligés.
Merci, Tax Shelter.
Ça, en fait, c'est ça qui est un peu particulier avec le tax shelter, c'est que les gens sont obligés de venir dépenser du pognon ici, forcément, c'est pour ça qu'on leur donne. Alors des fois, donc, ils sont obligés de prendre des techniciens belges, des comédiens belges.
Oui.
Mais en même temps, on a des bons. Donc, tu sais, d'un côté, tu te dis, ah oui, ils sont obligés de les prendre. Mais il faut pas oublier qu'ils sont bons, donc
Non, moi ce qui
c'est
m'énerve
pas
le
un problème.
plus, c'est les films qui font semblant que l'histoire se passe en France, alors qu'elle se passe à Bruxelles. Et que, bon, forcément, nous, on connaît les rues. Mais en plus de ça, il y a des trucs très évidents, quoi. Genre, les panneaux de signalisation sont belges, clairement. Et puis, quand c'est dans le métro, c'est le métro parisien.
Ouais.
Le film Anna, qui sort dans pas longtemps,
Mmh.
il y a justement des scènes qui se passent dans le métro, toujours à Paris. Mais dès que c'est en dehors du métro.
Je sais même, je suis même pas sûr que ce soit Paris,
Si,
les scènes de métro.
le métro, c'est Paris. Il n'y a pas
Ouais.
Bruxelles, ça, non, non.
Non, 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 ce sont pas des c'est pas le métro
Ouais,
bruxellois,
c'est
ça c'est
peut-être même
sûr.
pas
Mais je
Paris.
sais pas si c'est Paris,
Et par contre,
j'ai pas
tout le reste du film,
reconnu.
c'est quasiment Bruxelles. Elle va à la
Ouais,
piscine,
ouais.
c'est à Schaerbeek et tout, mais tu te
Mmh.
dis, bon, enfin, pourquoi est-ce qu'ils ont juste pas fait à Bruxelles? Surtout que finalement, on s'en fout qu'elle soit à Bruxelles ou à Paris. Hein. Pour
Bien
l'histoire, ça n'a
sûr,
aucun
bien
rapport. Donc,
sûr.
voilà, soit.
Ouais. Ça, c'est drôle dans les films de Danny Boone aussi, vu qu'il les tourne tous chez nous, à part la petite famille, là, je pense pas qu'il les tournait chez nous, mais tu vois des panneaux en flamand, alors que c'est censé être... Tu sais, son film Le Volcan, là, il y avait des panneaux,
Oui.
c'était mis Brandweer et tout, hein, pour les pompiers,
Ouais.
et c'était censé être en Serbie ou je sais pas quoi à ce moment-là,
Oui.
enfin bon,
Et
soit.
maintenant, il y a Christian Clavier et. C'est pas
Oui, il y a
Jean Reno? Ah non,
Bertrand
c'est.
Blier qui tourne un film chez
Oui,
nous avec
Depardieu,
Depardieu
pardon.
et Clavier.
Jean Reno. Depardieu et Clavier qui tourne à Bruxelles, tout à fait. Donc voilà, on verra ce que ça donne.
Bon,
Première news,
parenthèse
en
fermée.
parlant de vieux, hein, Depardieu,
Ah oui.
Clavier, voilà, bah, c'est pas
Ah, on est
mal.
dans la même veine là.
Transition. On va parler de Expendables. Vous savez ce vieux truc là qui était sorti il y a quelques années où il nous a fait tout un comeback de vieilles célébrités des films d'action 80s qui avaient bien fonctionné. Hein. Il y avait eu le 1, 2, 3.
Il était cool le premier.
Oui.
Le 2 était un peu moins bien, mais il avait un bon méchant.
C'est lequel
C'était
avec Chuck Norris?
c'était Jean-Claude Van Damme.
Oui.
Chuck Norris était dans le 2. Le 3 était très nul, vraiment mauvais, absolument pas digne d'intérêt. Mais le voilà, il se lance dans un 4.
Le premier, c'est qui, c'est Val Kilmer, le méchant, ou c'était... Je sais plus. Ok. Donc, ils vont se lancer dans un 4. C'est reparti. Et bon, ça sent... à lire cette première phrase, ça donne beaucoup d'espoir. Le tournage se débutera cet été en Bulgarie.
Bah, comme les deux précédents.
Hein. Oui, voilà, oui. Et comme Die Hard 5.
Ouais, bah comme beaucoup Bulgarie. De films. Hein, comme
Il y a Hongrie. Mais ça, Hongrie, oui, ça, c'est oui, beaucoup. Hein, Blade Runner. Beaucoup Budapest etc., aussi, oui, c'est parce vrai. Qu'il y a un grand studio à Budapest qui a été construit récemment, qui est vraiment très grand et qui permet de faire plein de films.
Mais la Bulgarie, c'est encore moins cher.
Hein. La Bulgarie, c'est encore moins cher. Hein, c'est vraiment des cartons-pâtes.
Et ils ont des décors pas mal aussi en Bulgarie. Hein. Ils sont. T'es plus très loin des Carpates et de ça, donc niveau montagne et de ça, il y a des choses intéressantes. Mm-hmm. Donc pourquoi clairement. Pas hein, pourquoi pas.
Et donc, Sylvester Stallone sera de la partie.
Ouais, parce qu'il y a plusieurs mois, il avait dit qu'il le ferait pas. Conflit avec je sais plus qui, enfin voilà. Sans doute une histoire de pépette.
Oui.
Tu sais que déjà, ils avaient viré Bruce Willis à partir du 2 ou 3, je ne sais plus. Pour une histoire de pognon, je crois que le gars avait 4 jours de tournage et il voulait plus d'un million, ou je sais plus quoi. Enfin,
oui, il paraît qu'il est très
hallucinant, hein, ouais. Il a fait son Mark Wahlberg. Et alors qu'il et donc voilà, Sly avait quitté le projet à un moment. Et puis il va revenir quand même finalement pour le 4. Et c'était... voilà, c'est Randy Couture qui a annoncé que le tournage démarrerait début de cet été en Bulgarie. Mais est-ce qu'il y en a un qui sera de retour ou pas? Je ne sais pas, parce que il y a le tournage d'un autre film qui va débuter en juin. Mmh. C'est Terminator. Et donc Schwarzenegger, je ne sais pas s'il sera dans Expendables, on verra.
C'est pas possible quand même.
Mais
Terminator.
Encore.
Mais ils ont pas appris leurs erreurs. Enfin, tu vois, Genesis, mais... tout le bordel.
Oui, mais peut-être que si. Parce que celui-ci, oui, il démarrera après le 2.
Ah.
Et donc, ouf, le 3, ça. Genesis, et tout ça, le bazar. C'est... Bam.
Non, mais ça, c'est le dernier espoir. Quoi. C'est vraiment dire, bon, écoutez, on va faire après le 2 alors. Si ça foire, c'est fini, quoi. Là, tu peux plus rien faire. Après, c'est fini.
Ouais, ça devient compliqué. Bon, le réalisateur sera celui de Deadpool, on verra. Et il y aura aussi Linda Hamilton qui joue Sarah Connor, qui sera de retour. Donc, il y a quand même une petite touche nostalgie qui va jouer.
Oui.
Donc, pourquoi pas.
Oui, j'y crois vraiment plus. Hein. Terminator, pour être très franc.
Non, mais bon, en même temps, bon, le 2, c'est un chef-d'œuvre déjà.
Oui, voilà, mais c'est bien. C'est
le premier est bien, le 2, c'est un
chouette. Très chouette, point, on arrête. Mais il ne faut plus faire le... Après Genesis, bon. Tout le bordel, c'est fini. Il faut... S'il vous plaît, quoi, faites autre chose. Surtout qu'on peut inventer une autre histoire avec des robots. Enfin,
je n'ai même pas vu celui avec... comment elle s'appelle? Avec Daenerys. Le dernier qui est sorti.
J'ai oublié son nom.
Emily Clarke.
Voilà. Ouais. Emilia Clarke.
Emilia Clarke.
Qui choisit très bien ce film, apparemment. Elle a vraiment un agent, mais.
Autant ces séries, il n'y a du pas, top de, niveau. Pas de soucis.
Bah, encore, elle a de la chance, parce qu'elle est tombée dans un truc où. Elle ne savait pas au début si ça allait être bien. Non, elle était quand même à poil dans la moitié de ses scènes. Et puis, enfin, bon.
Non, son film, sa rom-com, était pas trop mal là, avant toi.
Ouais, et puis elle a joué. Elle a... Solo, hein, elle joue dans Star Wars Story.
Elle joue dans Solo.
L'amoureuse de Solo.
Ah.
Bon,
ouais, écoute, je ne suis déjà pas confiant pour Solo.
On verra tout ça.
On verra bien.
En temps voulu.
Ouais.
On ne traîne pas, on passe au deuxième film de la semaine, Oh Lucy, un film qui avait été présenté au Festival de Cannes, la semaine de la critique. Je te laisse prononcer les noms, s'il te plaît.
Ouh, alors je ne me suis pas exercé, mais je vais faire ça.
Atsuko Hiranagi.
Oui,
okay.
Avec Shinobu Terajima, Shioli Kutsuna et Josh Hornet.
What?
Ouais.
Le comeback?
Ouais,
mais
ouais.
Que fait-il là? C'est comme s'il y avait James Van Der Beek dans un film.
C'est un peu ça, chose. Ouais. J'ai une petite anecdote sur Josh Hornet.
Dis-moi.
Il y a une Belge à Cannes qui a vécu ça, qui me racontait. Elle était dans le palais des festivals, et elle voulait aller aux toilettes et elle a demandé à un gars s'il savait où étaient les toilettes, pensant que c'était un steward. Et non, c'était Josh Hornet.
Oh putain.
Elle s'est sentie un peu mal sur le moment.
Tu peux quand même demander les toilettes à quelqu'un.
Bien sûr.
Tu vois.
Bien
sur
sûr.
Le jardin, je fais.
Tu sais, c'est comme si tu
vois pisser.
Ouais, mais tu sais, c'est comme si tu voyais Nicole Kidman dedans. Tu dis, excusez-moi, madame, elles sont où les toilettes? C'est un peu bizarre, quoi, tu vois. C'est Nicole Kidman.
Oui.
Bon, après, là, c'est Josh Hornet.
Si c'est la seule phrase que tu peux dire à Spielberg en face à face, ce serait con, quoi. Tu te dis, merde, il était là, je suis où c'était les toilettes.
Ah. Ouais.
Voilà,
voilà. Non, c'était juste une anecdote sans intérêt, mais que je trouvais très drôle, surtout quand elle me l'a raconté, tu vois.
Ouais, c'est quand même Monsieur Pearl Harbor, donc il faut pas.
Il a quand même pas fait grand-chose dans sa carrière.
Hein, ah non, à part hein. Mort, qui était une référence. Bon, ouais. Parle-moi de ce film japonais, américain ou japonais, que je n'ai forcément pas vu. Ouais. Tu me connais.
Bah écoute, en fait, il s'agit d'une japonaise qui s'appelle Setsuko. Mm-hmm. Et elle est. Elle vit sa petite vie peinard à Tokyo.
Peinard ou pas bien?
Bon, écoute, elle a une vie japonaise, quoi.
Ah, parce qu'on va dire le synopsis, c'est solitaire, sans saveur, c'est...
Ouais, enfin, ça va, c'est... Sa petite vie peinard, quoi.
Ouais, ok.
Sans saveur, oui, c'est bien, ça. C'est bien dit, c'est bien trouvé.
Merci, le synopsis.
Ouais, ouais. Je sais pas. Oui. Ils se donnent, les distributeurs.
Parfois, hein, ben, c'est quand ils doivent vendre le film. Ça c'est quand ils font beaucoup d'efforts. Ils disent, bon, ouais. Il faut qu'on trouve un truc un peu sympa à dire. Il faut écrire deux paragraphes pour que les gens comprennent. Ouais. Continue, bon. Je t'interromps plus, vas-y.
Et un jour, sa nièce, Mika, lui demande de prendre sa place à des cours d'anglais. Et Setsuko va le faire. Et elle va un peu tomber amoureuse du prof d'anglais, incarné par, je te le donne en
Armie mille... Hammer, Josh Arnett.
Josh Arnett. et un jour, il se pointe plus au cours. Il disparaît.
Mm.
Et sa nièce aussi.
D'accord.
Et c'est là que la Setsuko, mm-hmm. qui était renommée Lucy dans les cours d'anglais, hein, parce que le Josh Arnett, il leur donne des cours en leur donnant des prénoms américains, tout ça, enfin tu vois. Et donc, je vais l'appeler Lucy, ce sera plus simple à prononcer que Setsuko. Non,
oui.
Ça, c'est pas très compliqué à dire.
Setsuko, ça va.
Mais soit, elle va essayer de retrouver son prof d'anglais. Il va partir en Californie en road trip. Oh, avec sa sœur, la mère de Mika. Donc ça va être assez drôle.
Du coup, c'est un film qui se passe en Californie.
Moite-moite.
Moite-moite, ok.
J'aime bien dire moite-moite. C'est plus drôle que 55. 50-50. Oh,
on enregistre trop tard cette émission. Moite-moite, ouais. C'est ça.
Moite-moite, exactement.
Ok, donc ça se passe moitié du coup Japon, moitié États-Unis.
Ouais.
Mais concrètement, à part une histoire d'amour, ou en tout cas de recherche d'amour, ça parle de quoi? Quels sont les sujets traités dans ce film?
Alors en fait, déjà il faut savoir que c'est un premier film. Je tiens à le préciser.
Pourquoi?
Parce que c'est un beau film.
Ah.
Et que.
Mention spéciale.
Mais oui, petite. Oui, oui.
Bien joué.
Et en fait, la réalisatrice, elle avait déjà réalisé plusieurs courts, dont un court métrage qui s'appelait déjà Oh Lucy. Et donc ici, elle l'a adapté en long métrage. Et. Ce qui est bien, c'est que c'est un road movie qui se moque vraiment des conventions. Enfin, road movie dans sa deuxième partie. Parce que les thématiques, pour répondre à ta question initiale quand même,
merci.
Ça parle vraiment... C'est vraiment un portrait de la société japonaise plus qu'autre chose.
Ah, okay.
Au début, tu vois vraiment ce qu'est le microcosme, l'effervescence qu'il y a à Tokyo. Et... par différentes choses, ça parle un peu de la surpopulation, de la problématique des suicides qu'on trouve beaucoup dans les sociétés asiatiques, mm-hmm. surtout japonaises et sud-coréennes.
L'exploitation des femmes aussi, peut-être.
Oui, bon, pas l'exploitation, mais
non, mais le la côté fétichisation. Très, ouais,
c'est vrai que c'est
un peu malsain parfois.
Hein, tu vois souvent ces images d'écolières japonaises en jupe et ce genre de trucs. Il y a souvent ça dans les films de Sonotion, par exemple.
Véridique, voilà. Cela dit. Hein.
Oui, bah oui.
On va être en Asie.
Ouais. Bah écoute, je n'en sais rien, je n'y ai jamais été.
Non, c'est mais vrai. Quand tu vas dans un magasin acheter une bouteille d'eau, quoi, bah tu vois, la sortie d'école, là, tous les mecs, ils sont là. Tu sais, vraiment comme dans les mangas, quoi. Ils sont là contre la porte du magasin et t'as toutes les filles avec leurs jupes et leurs hautes chaussettes, là, les mini-socks.
Ouais, ouais, ouais.
Et t'as vraiment ce côté d'argouille incessante.
Bah, si tu le dis.
Bah non, ce que j'ai vu en tout cas une fois, et du coup, mais non, ça y est.
T'as l'image en tête.
Là, c'est ça, généralisation. Oui, continue, pardon. Désolé. T'allais dire un truc bien sur Josh Hartnett, je le sentais.
Alors... Écoute, en tout cas, je vais pas dire de mauvaises choses sur lui. Ce qui est génial avant tout dans le film, c'est quand même la performance de l'actrice qui incarne Setsuko, enfin Lucy, et qui s'appelle le Shinobu Terajima. Elle a vraiment un rôle assez original pour une personne de son âge parce que c'est assez complexe et au final ce qu'elle va découvrir lors de ce road trip, c'est elle-même. Elle va se découvrir elle-même, voir elle va faire le point sur sa vie sur ses envies, sur voilà.
Et prendre du recul sur la société japonaise aussi. C'est exactement. Peut-être un peu ça quoi.
Exactement.
Mettre ça en perspective quoi.
Ouais. Donc, malgré toutes les péripéties qui vont lui arriver, voilà, y a tout ce travail d'introspection qui se fait, pas forcément consciemment toujours, hein, mais ça se fait quand même. Et c'est ça qui est bien. Et Josh Arnett, je l'ai vraiment trouvé très bien dans. Il joue un jeu très exagéré, comme ça, très, comment dire,
Ken et Barbie.
très exubérant. Mais ça fonctionne parfaitement dans le film, c'est évidemment voulu. Il est là pour jouer l'américain un peu type, un
L'étranger,
peu
le touriste,
cliché, tu
quoi.
vois.
Oui, vraiment.
Ouais, et donc quand il est dans son rôle de prof d'anglais au Japon, il est à fond dedans. Aux États-Unis, il est un peu moins dedans, forcément, parce qu'il est chez lui,
Ouais.
et voilà.
On peut pas jouer de la même manière. Ouais.
Exactement. Mais voilà, j'étais assez aussi surpris par Josh Arnett, je le trouvais bien. Et comme quoi, le gaillard, il a encore des choses à proposer.
Que se passe-t-il?
Ben oui, écoute.
Sera-t-il dans Expendables 4?
Pour la carrure, hein, fieu.
Charnette. Ouais, il y avait quoi? Il y avait Liam Hemsworth, là, le frère de Chris.
C'est vrai.
Hein?
C'est vrai,
Et
c'est vrai.
c'est vu que c'est quand même le concept, c'est de ramener des dinosaures au cinéma. Enfin, tu vois, c'est des anciennes stars dans un concept de film. Donc, Josh Hartnett,
Pas besoin
excusez-moi,
d'expliquer, hein.
fantastique. Il faut,
Oui, c'est vrai que
pétition.
dans le genre Has-been sur le retour,
Exactement.
vu comme ça. Vu comme
On est
ça.
méchant avec Josh Hartnett.
Bah, en même temps,
J'ai jamais rien eu contre lui, mais.
je saurais même pas te citer un seul de ces films à part
Si,
Peur
il
à
avait fait un
l'avoir.
film justement, tu sais, pour les post-ados, pré-ados aussi.
Je crois qu'il en a fait plus qu'un.
Avec genre My Girl Next Door ou un truc comme ça, tu vois, ce genre de film-là, quoi. Mais je sais plus qu'est-ce qu'il avait
Non,
fait.
il était pas dans The Girl Next Door.
Non. Mais un truc du style.
Très probablement.
Ah bah si, non, c'était le film où avec le mec, il avait décidé de ne pas penser au sexe pendant genre 30 jours, un truc comme ça, ou ne pas faire l'amour
Ah oui, je
pendant
crois que je
un
vois ce que
an,
tu
ou
veux dire,
je sais
oui.
plus ce que c'était, mais il devait se retenir de quelque chose, et il y avait des filles qui venaient chez lui justement pour essayer de le forcer à faire cette chose-là. Je ne sais plus du tout le titre, mais c'était ça le pitch, ouais. Ça je m'en
Ok.
rappelle. Grand
Oui,
film.
je vois vaguement de quoi tu parles.
Voilà, ce genre de film qui te marque quand t'as 14 ans.
Ouais. Ah bah écoute,
Passons
peut-être.
à la deuxième news. Oh là là. Deuxième news, donc on parle justement d'un film un petit peu d'initiation, initiatique, ouais, voyage
Oui.
initiatique. Call Me by Your Name, c'est aussi un film initiatique, très différent bien sûr, puisque la news c'est qu'il y aura peut-être une suite ou plusieurs suites, puisqu'il faut savoir que le roman sur lequel donc, le film se base possède en fait des pages sur les années qui suivent les événements. Donc en fait, il y a un peu un. Comment on appelle ça? Donc
Un
y a un
épilogue.
épilogue, c'est ça, y a prologue et épilogue. Et donc du coup, bah, why not une suite, quoi? Et forcément, Hollywood, dès qu'on entend le mot suite, si en plus il y a un succès commercial ou critique,
Là, je ne sais pas
c'est
si c'est
intéressant.
Hollywood, mais en tout cas, c'est le réalisateur Luca
C'est vrai?
Guadagnino qui est assez intéressé, parce qu'il aimerait parler notamment de la problématique du sida. Donc, dans le film, dans le bouquin, normalement, se déroule en 86, quelque chose comme ça, 88. Et dans le film, ça se déroule finalement en 83. Et il veut parler, donc, enfin, il veut que la suite se déroule 5 à 6 ans après. Donc, on serait forcément en 88, quelque chose comme
Donc
ça.
c'est moche, il y en a un des
Et
deux qui chope le sida
c'est.
ou quoi?
Pardon?
Il y en a un des deux qui attrape le sida?
Bah, je n'en sais rien, mais
Sans
sans
doute.
doute. Sans doute. Et vu que
C'est
c'est
con.
vraiment à partir de la fin des années 80, début 90, qu'on a beaucoup commencé à parler du sida, voilà, ça serait quelque chose de pourquoi pas assez intéressant. Et il y a. Enfin, maintenant, il y en a eu quand même pas mal de films qui parlaient de ça, mais là, on est vraiment dans le bon contexte. Et bah, voilà, d'ici 2-3 ans, les personnages, enfin les acteurs seront un peu
Ouais.
plus âgés. Bon, Armie Hammer, il est déjà plus âgé que son personnage.
Ça va encore un peu de
Bah,
maquillage et
là,
tout, ça va.
il était censé jouer
Oui.
un étudiant de 23 ans, quoi.
Non,
Et le
ça se voit
gars,
qu'il a 30 piges.
il en a
Ouais.
29,
30, même plus que
30,
30, lui.
ouais. Ah
Ouais.
oui, oui, il doit avoir 31, 32 ans.
Ouais, même plus.
Donc d'ici 2-3 ans, il sera à 34 et il devra jouer quelqu'un qui aura 30. Voilà, qui sera
Il y a moyen de
en fin de
négocier, quoi.
vingtaine, début de trentaine, donc ça peut encore passer. Et Timothée Chalamet aura plutôt style 25 ans, donc comme son personnage, donc ce sera parfait. Voilà, donc pourquoi pas? A priori, je ne suis pas hyper emballé, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise.
Pas formidable ça quand même. Bah, je sais pas.
Ben non, parce que d'un côté, c'est le. Bah, c'est comme pour beaucoup de films, c'est un film qui suffit à lui-même.
C'est ça.
Il n'y a absolument pas besoin de suite. Mais c'est comme toujours, s'il y a un très bon scénario avec une histoire qui peut justifier une suite, pourquoi pas?
Parlons de suite.
Tu sais, c'est comme Toy Story 3, tu te souviens, personne ne voulait dans les Toy Story 3.
Il était génial.
Et c'est le meilleur. Ouais. C'est le meilleur de la saga.
Il était fantastique.
Donc voilà.
Oh, Toy Story 3. Tu parles de bons films. Et justement, bah oui, en parlant d'autres news, parce qu'on ne l'a pas mise, mais c'est intéressant.
J'ai cru que tu allais dire en parlant de bons films et passer au film suivant, et j'étais là. Ah. Non.
En parlant de news, bah oui, il y a aussi J.J. Abrams qui a révélé qu'il avait le scénario de Star Wars épisode 9.
Ah, il l'a écrit, ça.
C'est fait. It's done. It's validated by Kathleen Kennedy.
Mais il est temps, hein.
Ah oui, il est temps. Donc, oh, allez, ça c'est fait. Bonne chose, mauvaise chose, on verra. Forcément, il a dit qu'il était très excité, que c'était fantastique.
Bah, oui.
On va pas dire l'inverse, hein.
Non.
J'ai gros doutes. T'imagines. Bon, parlons de gros doutes.
Non, c'est pas un doute, c'est une certitude. Okay.
Non, mais c'est un doute quand tu vois l'affiche. Troisième film de la semaine, et pas des moindres. Madame Mills, une voisine si parfaite.
Ouais.
Quand un titre pareil, déjà de 1, ça inspire la confiance. De Sophie Marceau avec Sophie Marceau. Il faut vraiment se méfier de ce genre de film, hein, mes amis. Quand c'est deux et avec, et que c'est Michel Larocque, Sophie Marceau, Patrick Timsit, si possible. Faites attention. Pierre Richard qui visiblement pense à sa pension. Enfin, il est déjà en pension, mais il pense à la relève. Comédie française. Ah, le meilleur genre de la comédie. Le meilleur genre en France. Je réfléchis deux secondes, parce que là, c'est pas possible.
Mais écoute,
Hélène est éditrice de romans à l'eau de rose. Déjà, première phrase.
Ouais, ouais.
Et mène une vie rythmée par le travail. Attention, femme active, femme moderne. 21e siècle. Sexy, mais active à la fois. Elle se réfugie dans les livres, persuadée que la vie y est plus belle que dans la réalité. Se complaisant dans une certaine routine, son quotidien va être bouleversé par l'installation d'une nouvelle voisine, Madame Mills. Cette vieille américaine excentrique va prendre rapidement une importance insoupçonnée dans la vie d'Hélène. Mais les apparences sont parfois trompeuses.
Je sais pas si j'ai envie que tu me racontes des histoires la nuit. Mais tu as bien fait ça.
Ça sent le film gênant, ça. Je me trompe ?
Non. Tu sais surtout très bien lire.
Oh,
mais écoute, Sophie Marceau, c'est son quatrième film en tant que réalisatrice.
Mm-hmm.
Je sais même plus si j'ai vu les précédents. Je pense que celui juste avant, c'était La Disparue de Deauville. Apparemment, c'était pas trop mal. Mais je ne peux pas me prononcer plus que ça. Alors ici, que dire ?
C'est atterrant. Pour les auditeurs, est-ce que c'est pire que Brillantissime ou pas ?
Même veine, tu vois.
Ah ouh !
Même veine de trucs absolument nuls.
Waouh !
C'est déplorable, c'est triste, c'est... Comment on peut encore produire des trucs pareils, quoi ?
Parce que le poster peut encore plaire. C'est mais quoi le poster est dégueulasse. Pierre Richard est une femme, c'est quoi le...
Mais non, mais pas Pierre compris. Richard est un homme qui se oui. déguise en femme.
D'accord.
En fait, il incarne... Ouais, ce synopsis, c'est encore...
Hein. Pauvre Pierre Richard.
La première scène du film, c'est Pierre Richard avec un Chinois où il essaye de lui faire... Je vais pas dire de lui vendre. Enfin, c'est de lui faire vendre une œuvre d'art. D'un créateur russe inconnu oui. au bataillon. Et pour que cet art soit. Pour que cette œuvre, pardon, soit terminée, enfin pleine, oui. parce que cette œuvre a été faite 100 ans auparavant, quelque chose comme ça, il faut réunir trois pièces. Et une des pièces, c'est Hélène, le personnage de Sophie Marceau qui l'a. Parce que le créateur serait son. Grand-père, je ne sais quoi, ou en tout cas, ça atterrit. En tout cas, la pièce a atterri dans sa famille, tu vois. Et donc, il va tout faire pour essayer d'acquérir cette pièce, afin de vendre.
Et donc, il va se déguiser en femme.
Afin de vendre son petit montage aux Chinois, quoi.
Voilà. Et donc, il va se déguiser en femme.
Et donc, il va se déguiser en femme pour faire la voisine parfaite. Tout est dans le titre, Guillaume.
Pourquoi il ne peut pas être
Madame
le voisin
Madame Mills, une voisine,
pourquoi
c'est parfait.
Est-ce qu'il peut pas faire le voisin parfait?
Parce qu'il avait... bah, tu penses bien qu'avant de devoir se déguiser et machin, il a demandé de manière plus traditionnelle. Bonjour, petit mail, enfin je sais pas, télégramme, enfin bon.
C'est sa deuxième tentative en fait.
Bah, oui.
Voilà. Ah.
Et donc, en fait, il fait Madame Doubtfire, quoi.
Oui, mais ça peut être sympa encore comme concept. Allez, le concept, c'est une comédie un peu patoche, mais...
Madame Doubtfire, c'était sympa, oui.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui fait que Madame ça a foiré ? Madame Mills,
c'est pas sympa.
Mais qu'est-ce qui fait que ça foire, du coup ? Si le synopsis peut être bon...
Tu crois à aucun moment, tu ne crois à cette histoire, mais tu ne crois à ces personnages, tu ne te prends pas d'empathie pour les personnages.
Mais Doubtfire non plus, tu n'y crois pas. C'est pas crédible.
Mais quand t'as 8 ans, si.
Oui, quand t'as 8 ans. Non, mais... Est-ce que Madame Mills, quand t'as 8 ans, c'est crédible ?
Non, sûrement pas.
Même non, même pas. Pas. Non. Ouf, ça, c'est, tu sais que c'est non, mais.
Enfin, cela dit, je trouve que. Tout mes respects à Pierre Richard, mais je trouve que Robin Williams, c'était une bonne matrone un peu plus crédible, quand même. Hein.
Bonne femme.
Voilà.
Sur grand écran.
Exactement. Non, ici, tu crois pas au personnage, tu crois pas à l'histoire. C'est jamais, mais quand je te dis jamais, c'est jamais drôle. Toutes les 30 secondes, on se regardait avec ma voisine, l'air de se dire « Putain, qu'est-ce qui est en train de se passer, là ? Ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas écrit cette réplique. Si, non, c'est pas drôle, il n'y a rien, il n'y a aucun cadrage, il n'y a rien. » C'est aussi encore le vide intersidéral. Il n'y a absolument rien dans ce film. C'est d'une tristesse. Et en plus, c'est même pas bien joué, quoi. Sophie Marceau, il faut qu'elle arrête ses rôles de quinca...
Oui, tu parlais de ça au début du podcast. Je disais Madame Milf, tu me disais, ouais, justement, je vais en parler tantôt. Pourquoi il joue beaucoup sur le fait qu'elle est genre encore belle alors qu'elle est vieille, enfin, entre guillemets.
Non, bah, non Sophie Marceau vieille. Reste encore très bien, tu vois. Mais,
oui, bien sûr.
Non, je disais ça par rapport à l'affiche. Là, elle a vraiment une tête de gamine de 15 ans. C'est ridicule. Non, dans le film, c'est une quinca. Enfin, en même temps, elle ne va pas jouer sur son âge hein, non plus.
Non.
Elle va pas mentir dessus. Non, mais ça... Voilà, elle fait plus rien de bon, Sophie Marceau. C'était quoi son dernier bon film ?
La Baume.
Il y a... ouais.
Deux.
James Bond ?
LOL.
LOL. Écoute, j'ai pas vu l'original. J'ai vu le remake américain.
Mais
j'ai
ouais,
pas
mais franchement, c'était pas nul. Bon, c'est un film pour ados, hein, mais elle était pas mauvaise dedans. Enfin,
d'accord.
On lui demandait pas grand-chose non plus, mais bon. C'était pas nul. Non, franchement,
c'était
pas
nul. Non, et puis Richard, dans le film, c'est un grand nom. J'adore Pierre Richard, vraiment. Je l'aime beaucoup.
Bah oui, étant la chèvre.
Même dans les films un peu moins bien. L'année dernière, il avait fait un film qui n'était pas terrible où il se faisait passer pour quelqu'un d'autre sur Internet. Et le personnage était encore pas trop mal. Il y avait des trucs. Le film n'était pas terrible.
Mais là, il est dans tout, Pierre Richard.
Et ici, là. Non, c'est nul. Nul. Et donc, je te propose que nous passions directement à la suite. Parce que là, ce sera une petite étoile vide.
Passons au sujet suivant. Passons du
pire. Là, il y a des choses à dire au moins.
Du pire au meilleur. Les meilleurs films de l'année selon les Césars et les Oscars. C'était ce week-end. Il y avait deux cérémonies. Je sais pas si tu les as regardées.
J'ai regardé les Césars. Non, les Oscars, je regarde jamais.
Bah oui,
je trouve que ça n'a aucun intérêt.
Non.
Tu te tapes déjà 3 heures de tapis rouge. Alors ensuite, à 2 heures ou à 3 heures, la cérémonie commence. Ça termine à 6 heures. Quand tu te réveilles à 7 heures, tu as les résultats qui viennent tout juste de tomber. Donc, non, vraiment, je ne fais pas des nuits blanches pour regarder ça.
Tu as les vidéos directement sur YouTube voilà. Pour voir la suite. Donc, voilà. En effet, je suis d'accord avec toi, il ne faut pas regarder les Oscars. Oui, par contre, César, j'ai pas regardé. Il paraît que ce n'était pas terrible, la cérémonie. Soit encore autre chose.
Non, bon, ça aurait pu être pire, mais...
Alors... Au César, le film qui a remporté pratiquement tout, hein, c'est 120 battements par minute, 6 prix au total.
Surprise !
Non, pas du tout. Meilleur film, meilleur acteur dans un second rôle, meilleur espoir masculin, meilleur scénario, meilleur montage, meilleure musique. Meilleur espoir, c'est d'ailleurs Nahuel...
Nahuel Pérez Biscayer. Alors,
tout à fait.
Qui est en plein de film. Tu me lances là-dessus, je trouve ça scandaleux qu'il ait été nommé en meilleur espoir.
Alors, ça fait longtemps qu'il est là.
Alors, je ne dis pas ça, oui. Je dis pas ça pour faire... moi, je connais sa carrière, tu vois. Mais ça fait au moins 5 ans que je suis sa carrière. J'ai vu pas mal de ses films. Il a tourné en Belgique, il a tourné en Suisse, en France.
Au revoir là-haut aussi de...
Il était dans Au revoir là-haut, ouais. Dont on parlera juste après. Voilà, ça fait quand même pas mal d'années qu'il tourne dans beaucoup de choses et on le voit dans beaucoup de films. Enfin, beaucoup, dans pas mal de films. C'est plus un espoir. Il devait être nommé dans la catégorie meilleur acteur et remporter le prix du meilleur acteur. Enfin, voilà. Donc, forcément, s'il était nommé en meilleur espoir masculin, il était évidemment attendu qu'il gagne ce César du meilleur espoir. C'était le minimum.
Question. Meilleur acteur dans un second rôle,
oui.
C'était lui aussi ?
Bah non.
Justement,
non, tu peux plus, depuis ta Rhyme, tu peux plus être nommé en meilleur acteur et meilleur espoir.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est un peu con, donc tu peux pas être meilleur espoir ni meilleur acteur dans un second rôle.
D'accord.
C'était je ne sais plus qui, un autre de la bande, mais en fait, quasiment tous les acteurs principaux étaient nommés en meilleur espoir. Les deux acteurs principaux étaient nommés en meilleur espoir, donc les autres étaient en second rôle, quoi.
D'accord.
Cela dit, meilleur film, ça se défend. Vraiment, en fait, je trouve que de manière générale, le palmarès n'est pas honteux. Ceux qui devaient être primés l'ont été. Et pour 120 battements, il mérite tous les prix qu'il a eus.
Deuxième film le plus primé, 5 prix, c'est Au revoir là-haut. On en parlait, meilleur réalisateur, meilleure adaptation, meilleure photo, meilleur décor, meilleur costume. Ce qui a du sens.
Ouais, complètement mérité.
oui. Petit paysan. Alors là, personnellement, je ne connaissais pas ce film. Meilleur premier film.
C'est un beau film.
Meilleur acteur dans le second rôle. Alors là, il y a eu 2-3 personnes sur Twitter qui se sont un peu acharnées, puisqu'il y avait le film Grave qui était en compète également.
Pour meilleur premier film, ouais.
Ouais. Alors, qui n'a pas eu de.
Il n'a rien du tout.
Alors que pourtant, beaucoup de gens disent mais enfin, c'est un des derniers survivants du film de genre.
Ouais.
Il faut encourager les gens au cinéma en France.
Bah, bien sûr, mais le film était nommé. C'est déjà une très belle récompense. Alors,
c'est pas mal.
J'aurais adoré qu'il gagne le César du meilleur premier film, hein, c'est évident. Mais je le trouve même un peu meilleur que Petit Paysan, mais Petit Paysan ne me choque pas comme gagnant. C'est pas démérité du tout. Hubert Charuel a vraiment fait un beau film, donc il mérite son prix. Swan Arlo mérite aussi son prix en tant que meilleur acteur, même si voilà, je vais pas revenir sur le cas de Nahuel Pérez Biscayer, qui clairement était au-dessus du lot. Et il y a eu Sarah Giraudot en meilleure actrice dans un gros rôle, donc, qui était très très bien. Et pour moi, c'était la favorite aussi dans cette catégorie. Donc voilà, très belle moisson de prix pour Petit Paysan, absolument pas démérité.
Barbara, qui a eu 2 prix, meilleure actrice, meilleur son.
Ouais, meilleure actrice pour Jeanne Balibar, qui est donc l'ex-épouse de Mathieu Amalric, hein, et elle a eu 2 enfants avec. Et donc voilà que des années plus tard, elle retourne avec lui et elle gagne un César pour un de ses films. C'est assez drôle parce que Mathieu Amalric était à côté de l'époux de Jeanne Balibar. Donc, voilà, tu vois que ce sont des histoires qui fonctionnent bien.
Tant mieux.
J'adore Mathieu Amalric, mais j'avais vraiment pas aimé Barbara. Je l'ai vu à Cannes. J'étais parti après 30 minutes, je t'avoue. Je l'ai pas revu depuis. Oui. Je devrais. Je sais. C'est pas bien. Je devrais le revoir. Mais voilà.
Non, ça arrive hein, quand même parfois.
Ça m'a pas pris.
Le Brio, qui a remporté le meilleur espoir féminin.
Ouais.
Pour Camilla Alors, Jordana.
Je trouve que Camilla Jordana est bonne dans le film.
Mais sans plus.
Mais clairement, pour moi, c'était Garance Marillier qui aurait dû l'avoir. Exactement. Pour Grave. Hein.
Là, j'étais choqué. Personnellement, quand j'ai vu.
Je pense que beaucoup de monde l'a été. Ouais. Camilla. Non, bon, après, voilà, je trouve que Camilla Jordana.
C'est gentil.
J'aurais dit, elle était bien dedans.
Hein. Voilà, c'est gentil.
Mais je trouve pas que c'était la meilleure.
Meilleur film étranger, faute d'amour, Loveless.
Ouais.
Ça, mérité. C'est pas du tout étonnant. Meilleur film d'animation, Le Grand Méchant Renard. Je ne connais pas.
Mérité aussi.
Très, et meilleur docu, I'm Not Your Nego, qui était un documentaire qui a fait coup de poing cette année. Donc, jusqu'ici, tout à fait logique.
Ouais, j'ai pas. Enfin, voilà, je trouve que dans l'ensemble, ceux qui devaient être primés l'ont été. Pour la plupart, là où ils auraient dû gagner. Donc, c'est bien. Franchement, je trouve que c'est plutôt une bonne moisson.
Si toi, tu étais votant au César, pour quel film aurais-tu voté pour le meilleur film ?
Au revoir là-haut. C'est celui que je l'ai préféré par rapport à 120 battements par minute. Mais après, je te redis...
Pourquoi pour ça ? C'est le côté plus léger, peut-être ?
Non, c'est juste que ça m'a plus pris, ça m'a plus parlé.
D'accord.
Après, 120 battements est un très très beau film et il mérite le prix. Hein. Ce n'est absolument pas usurpé. Ce qui m'a déçu, par contre, c'est la cérémonie, quoi. Ça reste chiant, il se passe pas grand-chose.
Pourtant, c'était Manu Payet,
il y a pas beaucoup de blagues, enfin, et quand ils en font, elles sont pas très drôles, donc... bon. Voilà, c'est un peu gênant. Je crois que Penelope Cruz a dû se faire un peu chier.
Honnêtement, c'est très marrant de faire des cérémonies qui durent 3h, 4h, pour un truc qui pourrait aller plus vite, quoi. Excuse-moi, mais t'as quoi ? T'as une vingtaine de prix à donner
Ah oui, ça pourrait être plié
en 2 minutes par chaque prix.
Même pas en une heure. Hein, mais
qu'est-ce que tu veux faire?
Oui, mais ça n'a aucun intérêt. Non, je comprends qu'ils veulent faire des sketchs et ce genre de trucs entre.
Oui, bien sûr.
Il y a eu des beaux discours, cela dit, de remettant. Robin Campillo, le réalisateur de 120 battements par minute, a fait de très beaux discours. Jeanne Balibar aussi, donc pour Barbara, en a fait un très beau aussi. Le reste après, voilà, ça m'a pas
je
marqué.
Je trouve que le meilleur sketch qu'il y a eu, c'était l'année passée aux États-Unis, Jimmy Kimmel, qui avait fait une rétrospection sur la carrière de Matt Damon.
Oui,
et qui avait
rétrospective, tu
projeté,
veux dire.
ouais, pardon, une rétrospective de la carrière de Matt Damon, qui avait projeté We Bought a Zoo, tu vois.
Ouais.
Et comme quoi, c'était vraiment un film où il donnait
Ouais,
tout,
mais.
il se foutait de sa gueule, c'était génial.
Mais oui, en même temps, il y a une espèce de petite guéguerre,
Oui, c'est
Jimmy
drôle.
Kimmel, Matt Damon,
Ouais.
depuis des années, c'est
Allez,
super drôle.
c'est super drôle, quoi,
Parce
c'est
que quand
hilarant.
je me souviens qu'il présentait un prix avec
Ben Affleck.
Ben Affleck, et quand Ben Affleck parlait, bah voilà, tout se passe bien, et quand c'était Matt Damon
Il
qui
y a la
parlait,
musique.
il y a la musique qui commence, la musique qu'on met quand
Dans
les
ce
personnes
terre, ouais.
qui reçoivent un prix parlent trop longtemps. Donc, ouais, donc c'est assez drôle, la petite guéguerre Jimmy Kimmel,
C'est drôle.
Matt Damon.
Elle est drôle.
Mais,
Il y a
on peut
pas...
passer aux
Ouais.
Oscars, du coup.
On passe aux Oscars, justement, la
Parce qu'on est en train d'en
transition.
parler.
Exactement. Alors là, il n'y a pas eu beaucoup de surprises, hein, personnellement. La forme de l'eau a triomphé. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure musique, meilleur décor. Alors, meilleure musique, oui, c'est clair. Meilleur décor, oui.
Oui.
Meilleur réalisateur, oui.
Oui.
Meilleur film.
Mais j'étais un peu surpris aussi, c'est ça
Là,
que j'allais
j'étais
dire.
surpris.
Alors, non, j'en suis très très
Oui,
content,
tant
j'en suis
mieux.
enchanté, mais je pensais que Three Billboards l'aurait, parce que c'était celui qui s'était détaché un peu plus ces derniers temps, avec Get Out aussi, qui a eu des prix à
Tellement
d'autres
étrange que
trucs.
Get Out gagne le meilleur film,
Ouais, je trouve
un
aussi,
film d'horreur
mais
de
voilà,
Blumhouse.
les Américains font parfois des choix qu'on n'explique pas toujours ici, hein. Donc voilà, mais non.
Non, pour moi, Get Out,
Complètement
c'était.
enchanté pour La forme de l'eau.
Get Out, c'était l'heureux nominé cette année, tu vois. C'était le film où allez, on va faire un petit geste. Jordan Peele, on aime bien. Il est sympa.
Tu, tu.
Il a fait un chouette film. Très chouette film. Franchement, c'est une de mes grosses surprises. J'avais mis dans mon top 10. Hein. Mais de là à dire meilleur film pour un film comme ça, je sais pas.
Peut-être pas meilleur film, mais le Get Out, hein, parle d'une thématique quand même très actuelle, très importante,
Aux États-Unis,
et
oui, bien
était
sûr.
absolument parfaitement traité. De manière très très juste. Donc c'est pour ça que c'est un film important. Donc peut-être pour ça, je comprends. Après, bon voilà, faut pas que des films se limitent à leur symbolique et autres, hein. Mais donc c'est pour ça que peut-être que ça n'aurait pas fait un gagnant
Bien
idéal.
sûr.
Mais j'aurais pu, enfin voilà, selon une certaine logique, ça aurait pu se défendre.
Three Billboards, tu l'as dit, a eu deux prix. Meilleur acteur dans un second rôle pour Sam Rockwell. Meilleure actrice pour. Ah, j'oublie son nom.
Frances
Frances
McDormand.
McDormand. Gary Oldman, meilleur acteur.
Attends,
Pardon,
bon,
oui.
on a déjà
Excuse-moi,
parlé
je vais trop
en long et
vite.
en large des deux, hein, Sam Rockwell et Frances McDormand, mais voilà, on va le redire, complètement mérité pour eux.
Une putain de performance.
Une
On peut.
putain de
Voilà, on peut le
performance.
dire.
Ouais. Frances McDormand qui s'est fait piquer son Oscar pendant quelques, je ne sais pas si c'était minutes ou heures, à la soirée
What?
post-Oscar. Il y a un mec qui a même pris une photo ou une vidéo avec l'Oscar. Il s'est fait interpeller par la suite, donc elle a récupéré son Oscar quand même.
What the
Mais oui, elle
fuck?
s'est fait piquer son Oscar.
Il faut pas amener l'Oscar à l'after party, tu le laisses dans le coffre, personnellement.
Oui, enfin non, c'est pas toujours possible, hein. Écoutez, enfin,
Ok.
soit.
Gary Oldman, meilleur acteur pour les heures sombres. Maquillage et coiffure, ça me paraît logique pour ce film-là, parce qu'il y a eu du boulot pour le
Ouais.
transformer en Winston Churchill. Et meilleur acteur, bah, ça me paraît un peu logique aussi, puisque la performance de Gary Oldman dans ce film-là, il doit se transformer pour jouer Winston Churchill.
Ouais, alors.
Mais il y avait
Vu ce
d'autres
qui se passe aux
concurrents.
États-Unis, j'étais un peu surpris quand même qu'il soit nommé finalement. Parce que voilà, tous les. Je vais le dire comment? Les prédateurs sexuels, hein, ont tous été un peu skippés. Hein.
James Franco?
Entre autres James Franco, même si voilà, visiblement, tu l'avais dit la fois dernière, bon, la personne qui l'a
C'est trop
attaqué
tard.
a un peu
Trop tard.
rétropédalé, donc,
Oui.
mais
Mais
soit.
c'était trop tard.
Mais on n'a pas vu Casey Affleck non plus pour A Ghost
Oui.
Story ou ce genre de choses. Et Gary Oldman, alors, il a agressé personne, mais il avait quand même frappé sa femme, une de ses ex-femmes, avec un téléphone à l'époque. Donc c'est le genre de
Ouais, à
comportement
l'époque
qui est quand même
de
pas très bien
Léon.
vu.
Tu vois, genre
Il y
il y
a
a
pas
longtemps,
mal
quoi.
d'années,
Oui.
je sais pas quand, mais il y a pas mal d'années. Donc ça m'étonne que, vu ce qui se passe maintenant, ils aient laissé passer ce genre de choses, mais bon, soit, voilà.
Attends, bon là il y a un débat qui peut se créer, mais si t'as commis quelque chose entre guillemets criminel, qui peut vraiment être puni par la loi, il y a une vingtaine d'années, et que t'as purgé ta peine, entre guillemets, bah normalement on peut plus te reprocher quelque chose qui date d'il y a 20 ans si t'as purgé ta peine, tu vois.
Écoute, je pense qu'il n'y a jamais rien eu.
Logiquement, tu vois ce que je veux dire.
Non, mais quand je dis que je pense qu'il n'y a jamais rien eu, c'est que il n'a jamais été arrêté. Il y a, voilà, ceci, oui, cela. Mmh. Bon, soit après, je suis. Hein.
Alison Janney, meilleure actrice dans un second rôle pour Atonia, ça on l'avait un peu prédit. Hein,
oui.
Grosse performance.
Complètement.
Meilleur scénario original, je suis content. Get Out, parce que oui, c'était une des grosses forces. Je suis vraiment très curieux de voir quels sont les prochains projets de Jordan Peele.
Et c'est le premier noir récompensé pour le meilleur scénario original.
C'est un mec brillant. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire après, puisqu'il a ce côté. Pour moi, c'est vraiment un des réalisateurs les plus excitants à savoir un peu qu'est-ce qu'il va faire, où est-ce qu'il va aller dans sa carrière, puisque c'est quelqu'un qui a un sens de l'humour de dingue et qui a aussi beaucoup de. Il aime bien la satire, quoi. Hein, il aime beaucoup faire des critiques de la société avec l'humour, ce qui est toujours très intéressant. Meilleur scénario adapté, Call Me By Your Name, voilà, c'est pas. Il fallait bien récompenser une manière ou une autre.
Oui. Logique.
Meilleure photo. Oh.
Enfin.
Enfin.
Alors, je pense qu'il avait eu 14 nominations dans toute sa carrière.
13.
Ah, c'était la 14e.
Ouais.
Enfin, donc, du coup, en 14 nominations, une victoire, enfin, à la 14e.
Putain, pour le mec Roger qui a Dickens, toute sa life.
Pour Blade Runner 2049.
Il a fait des bombes. Il a fait que de la bombe, ce mec.
Ouais, les films de Frère Cohen, entre
autres. Le king de la photographie, enfin cinématographie sur les, enfin cinématographie,
la photographie,
photographie sur les films qui est enfin récompensé.
Bah, c'est un des meilleurs, ouais.
Pour un film qui, Blade Runner 2049 méritait quand même d'un point de vue visuel, c'est un festin visuel ce film, donc rien que pour ça quand même il faut le dire.
Ouais.
Effets spéciaux aussi, c'est vrai que c'est un festin.
Logique.
Tout à fait logique.
Autre gagnant logique ici, Dunkerque,
ouais.
Pour meilleur montage son et mixage son. Alors,
Christopher Nolan doit quand même l'avoir très mauvais.
Ça aurait pu être Baby Driver aussi. Mais voilà, c'était l'un ou l'autre, et les deux méritaient complètement les prix, donc c'est absolument pas choquant. Je trouve, voilà, c'est logique.
Oui, mais non.
C'est un gagnant logique.
T'as raison, c'est vraiment une expérience sonore, une expérience visuelle, Dunkerque. Pour ça, ça me paraît très logique qu'ils reçoivent ces prix-là. Et le montage également, puisqu'il y a tout ce côté temporel, etc., qui pose problème. Donc franchement, oui, je pense que Christopher Nolan doit être un peu amer, parce que,
il est mal aimé de l'Académie, donc voilà.
Comme le disait le monteur du film, il dit, voilà, moi, Christopher Nolan était avec moi tous les jours dans la salle, quoi, et on faisait ensemble le film, donc il dit, c'est pour moi, mais c'est aussi pour lui, finalement, quoi. Mais bon, l'Académie ne veut pas. Meilleur costume, Phantom Thread.
Mm-hmm. Logique.
J'ai pas vu les costumes, mais ok. Ouais, meilleur film d'animation, Coco.
Parle quand même d'un designer. Hein.
Enfin, oui, il vaut mieux.
Donc, oui.
Coco, meilleur film d'animation.
Ouais.
Ça, c'est un peu le incontournable. Meilleur film en langue étrangère.
Et Coco a aussi meilleure chanson pour Remember. Tu vois.
Oui. Ouais. Meilleur film en langue étrangère, Une femme fantastique, un film chilien.
Ouais.
Tu avais vu ça?
Oui, je l'ai vu. Il était à Berlin l'an dernier. Très très beau film. C'est sur un transgenre.
D'accord.
Enfin, une transgenre. Je sais jamais. Enfin, soit.
Attention. Enfin,
mais oui, c'est un peu touchy.
Un ou une transgenre. Voilà, comme ça tu dis les deux. Meilleur docu, Icar.
Qui est je ne connais pas.
Je connais pas lui.
Mais je voulais refaire rapidement, parce qu'on a plus beaucoup de temps.
Vas-y.
Refaire une petite parenthèse sur La forme de l'eau de Guillermo del Toro.
Mm-hmm.
Qui est donc mexicain.
Oui.
L'an dernier, c'était Damien Chazelle, un Américain, qui l'avait gagné.
Oui.
L'année avant, c'était...
Enfin, Américain, franco-américain.
Oui, on va dire Américain. Avant lui, c'était Iñárritu.
Mm-hmm.
Mexicain. L'année encore avant, oui, qui est mexicain. L'année encore avant, c'était déjà Iñárritu, mm-hmm. qui était déjà mexicain à ce moment-là. Hein. Et l'année encore avant, c'était Alfonso Cuarón, un Mexicain. Donc, sur ces 5 dernières années... 3 Mexicains ont gagné, 4 fois en tout. Et c'est le trio des meilleurs réalisateurs mexicains qu'il y a pour le moment. Il n'y a pas meilleur qu'eux. Donc ce sont de superbes porte-drapeaux.
Il n'y a pas Alfonso Cuarón qui va nous faire un film l'année prochaine. Il n'est pas mexicain.
Et je pense que son prochain sera à Cannes sans doute cette année, Roma.
Ben voilà.
J'espère qu'on pourra en parler.
Hein. Ok.
Mais donc, voilà, Mexique. Le Mexique a de très très bons réalisateurs.
Terminons.
Et on devrait pouvoir reparler prochainement de Guillermo del Toro, qui sait.
Terminons cet épisode pour faire un peu le point sur les films qui sortent cette semaine. Rapidement, parce qu'on n'a pas tout vu en plus. Eva, un film avec Isabelle Huppert, tu l'as vu?
Alors, il était à... Non, je l'ai... Ben non, sinon on en aurait parlé. Il était à Berlin, il s'est fait descendre à Berlin. Donc oui. Voilà, c'est tout ce que je sais.
The Strangers Pray at Night, tu l'as pas vu forcément. Une part d'ombre, on en a parlé. Gaspard va au mariage.
Pas vu non plus. Oh, mais Lucie. L'affiche du film fait très Captain Fantastic.
Oui, vraiment. énormément. Oh, Lucie, on a oublié de donner une note. Aïe.
On n'a pas donné de note à Oh, Lucie ?
Non, d'accord, on l'a fait uniquement pour une part d'ombre.
Ok. Ben écoute, ce sera un 2.
2. Le jour de mon retour de Mercy avec Colin Firth.
Pas vu non plus.
Category 5 de Hurricane East.
Ah oui, le film de Rob Reiner là. Hurricane. Merde, ça. Ça a l'air, oui. Ok. C'est sûrement parfait pour une petite soirée nanar.
Et ça, par contre, c'est con qu'on l'ait pas vu. LBG avec Woody Harrelson.
Mais pour être très honnête avec toi, je ne sais même pas qui le distribue. Et donc voilà.
Voilà. Rita et le crocodile, film d'animation. Et Madame Mills, une voisine si parfaite. Combien d'étoiles ? Zéro.
Oui, zéro. Zéro. Rien du tout.
D'accord. Rien. C'était l'épisode 16 de Cinécast. Comme je le disais en début d'épisode, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner sur iTunes ou SoundCloud parce que c'est super important pour nous. C'est tout con, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça nous fait vachement plaisir. Donc merci à tous de le faire. C'est sympa.
Ouais.
On se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Guillaume.
Des bisous.
Des bisous, bye.
Ciao, ciao.